journal, Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Le 9-3 à la une ce matin, comment fidéliser les fonctionnaires qui ne font qu'y passer. Le gouvernement annoncera une prime de 10 000 euros au bout de 5 ans de service et plus de policiers et de magistrats dans ce département de Seine-Saint-Denis qui cumule les difficultés. 7 policiers désarmés depuis l'attaque de la préfecture de police de Paris. Une enquête est en cours sur chacun d'entre eux. Certains contestent leur mise à l'écart. Comment attirer de nouveaux militants dans un parti en toute petite forme, les Républicains, pour ne pas les nommer? Vous allez poser la question à votre invité, Ali.
Le tout nouveau secrétaire général du parti Les Républicains, le député Aurélien Pradier, qui sera l'invité du grand entretien de la matinale. Le standard est ouvert. Posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
Dans ce journal aussi, Twitter, qui supprime les publicités politiques de son réseau. Bagdad hérissé de murs, ça fait plus de 15 ans que ça dure et ce sera le reportage de notre série avant le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Du chocolat plus équitable pour ses producteurs au salon du chocolat. Et puis guitare-voix, c'est pas de la pop, mais de la musique du 19e siècle que nous vous ferons découvrir à la fin du journal.
France Inter.
C'est le département le plus déshérité de France métropolitaine. 28% de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Ça n'est pas une découverte. La Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris, est un territoire en souffrance, dans lequel on compte deux fois moins de magistrats que dans les tribunaux d'instance de la capitale, dans lequel il manque des policiers, des profs, et où ceux qui y travaillent sont souvent débutants. Cette défaillance de l'État dans le 9-3 avait été documentée par deux députés dans un rapport l'an dernier, lu attentivement par le Premier ministre. Ministre Édouard Philippe, il est très attendu à Bobigny aujourd'hui. 5 ministres avec lui pour une série d'annonces concrètes, sans effet de manche. Laurence Perron, son plan s'intitule sobrement « L'État plus fort en Seine-Saint-Denis ».
La sobriété sera sans doute reprochée par des élus qui attendent beaucoup d'un pouvoir qui les a sollicités déjà 3 fois depuis le début du quinquennat. Le rapport Borloo, enterré. Le rapport des parlementaires Rodrigue Coquendo et François Cornu-Gentil en 2018. Là, c'est le nouveau préfet de Seine-Saint-Denis, Georges-François Leclerc, qui a bâti ce plan en 23 mesures. Sur la sécurité, 150 policiers supplémentaires pour un territoire où le taux de criminalité pour 1000 habitants est le plus important de France métropolitaine. La rénovation des commissariats de police d'Aulnay-sous-Bois et d'Épinay-sur-Seine. Pour la justice, la création de 35 postes de greffiers, 12 postes de magistrats aussi. Pour l'éducation, 2 millions par an sur 10 ans pour financer l'immobilier scolaire dans un département où on ne parvient pas à dédoubler les classes, faute de bâtiments disponibles. Pour l'attractivité, et c'est la mesure phare, une prime de fidélisation pour les agents des services publics de 10 000 euros au bout de 5 ans de service dans le département. Mais pour ceux qui sont déjà en poste, la question n'est pas encore tranchée. Nul doute qu'elle sera posée ce midi à Édouard Philippe.
10 000 euros de prime donc pour fidéliser les fonctionnaires dans un département où les policiers restent moins de 3 ans en moyenne, contre 7 dans l'Essonne par exemple. C'est aussi vrai pour les profs à Jara Mohamed qui ne font pas de vieux os dans les établissements de Seine-Saint-Denis.
Et ils sont nombreux à vouloir partir. Au collège et au lycée en Seine-Saint-Denis, 50% des enseignants restent moins de 2 ans dans leur établissement. D'autres s'accrochent.
Gabriel Attanzio, je suis enseignant d'anglais au lycée Paul Robert et délégué SNES.
Le lycée Paul Robert des Lilas, on en a beaucoup parlé au début du mois après la mort lors d'une rixe d'un adolescent aux abords de l'établissement.
Paradoxalement, avec ces moments difficiles qui nous ont tous touchés avec les collègues, je me suis jamais senti aussi utile qu'aujourd'hui. Le problème, c'est que quand le sentiment d'utilité d'un enseignant, cela veut dire aller à 100% dans le sacrificiel et dans le « je me consacre aux intérêts de mon public », écoutez, c'est épuisant. Moi, je ne tiendrai pas très longtemps là-dessus. Il y a aussi l'impression qu'on le fait aux dépens de sa santé.
Et face à l'épuisement, la prime qui pourrait être annoncée pour inciter les fonctionnaires à rester dans le 93 ne suffira sans doute pas.
Les primes les plus ambitieuses ne pourraient pas compenser la perte de pouvoir d'achat des enseignants depuis 30 ans. Ça commence par une question des salaires, pas tant des primes.
Pour Gabriel Attanzio, les premières victimes de ces inégalités, ce sont les élèves.
Une chose à laquelle je pense, c'est le manque d'ambition des jeunes aussi. J'ai été professeur principal l'année dernière d'une classe de terminale. J'ai eu le plus grand des mots à convaincre mes élèves qu'ils pouvaient tenter des classes prépa. Ils ont un peu intégré cette idée qu'en Seine-Saint-Denis, on ne peut pas se préparer à ci, on ne peut pas se préparer à autre chose.
Et un chiffre qui en dit long encore, en Seine-Saint-Denis, un élève perd en moyenne un an de temps scolaire à cause des professeurs absents non remplacés.
Agera Mohamad de France Bleu Paris. Ça y est, l'union est consacrée à l'instant. Les familles ont donné leur accord. Les conseils d'administration de Fiat Chrysler et de PSA acceptent le mariage des deux groupes qui va donc devenir le quatrième constructeur mondial. Une fusion à 50-50. Le projet, avant même d'être bouclé, enthousiasmait les bourses. Hier soir, l'italo-américain a pris plus de 9% à Milan, 4,5% de plus pour PSA à Paris, parce qu'une alliance est toujours source d'économie pour ceux qui choisissent de convoler. Fabien Cazot.
Objectif, se protéger contre la baisse mondiale des ventes. Se regrouper permet de maintenir de confortables chiffres d'affaires, indispensables pour financer l'innovation, selon cet économiste spécialiste du secteur, Bernard Julien.
On a aujourd'hui des investissements extrêmement lourds à assurer du côté du véhicule électrique, par exemple, mais aussi demain, sans doute, du véhicule autonome. Évidemment, il est opportun de pouvoir étaler les frais de recherche-développement sur un nombre important de véhicules, ce qui permet de ne pas faire exploser les prix de vente aux clients, alors que ce serait le cas si on ne produisait que 4 millions de voitures.
Avec près de 9 millions de voitures par an, le nouveau géant se hissera au quatrième rang mondial. De quoi peser dans les négociations tarifaires avec les sous-traitants, mais gare à la tentation du gigantisme, prévient Gaëtan Tout-le-Monde, analyste à la Deutsche Bank.
La difficulté, c'est quand vous êtes très gros, vous êtes quand même plus lourd à manœuvrer. Il y a un autre enjeu aussi, c'est que quand on groupe deux constructeurs, ça entraîne des restructurations. Et là, il y en a probablement plus à faire en Italie qu'il y en a en France. Mais vous avez deux ingénieries, vous avez un certain nombre de choses comme ça qui se recoupent.
Dernière embûche, la Commission européenne qui surveille toujours de près les risques d'abus de position dominante. En France et en Italie, Fiat et PSA pèsent à eux deux 40% du marché automobile.
Et le siège de ce nouveau super groupe PSA Fiat Chrysler sera localisé aux Pays-Bas. C'est Carlos Tavares, le patron de PSA, qui en sera le directeur général. 8 TGV sur 10 assurés jusqu'à dimanche dans l'ouest de la France. Les agents de maintenance du centre de Châtillon sont toujours en grève, mais la SNCF semble avoir trouvé la parade pour le pont de la Toussaint. Des négociations ont eu lieu hier soir, on ne sait pas encore ce qu'elles ont donné. Ce sera en tout cas le dernier mouvement social à gérer pour Guillaume Pépi, qui passe la main demain à son successeur Jean-Pierre Farandou. À Bayonne, l'octogénaire qui s'est attaqué à la mosquée lundi en blessant deux personnes a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il est soupçonné de tentative d'assassinat, notamment sans relation avec une entreprise terroriste. Le parquet anti terroriste n'entend d'ailleurs pas se saisir du dossier. Selon l'expertise psychiatrique, l'homme souffre d'une altération partielle de son discernement, ce que conteste l'avocat des deux victimes, qui demandera aujourd'hui une audition avec le procureur général antiterroriste.
8h07, 33 signalements pour des soupçons de radicalisation à la préfecture de police de Paris depuis l'attaque du 3 octobre.
Et dans la foulée, 7 policiers ont été désarmés, annonce du préfet Didier Lallement, auditionné hier par une commission d'enquête de l'Assemblée. Ces policiers font désormais l'objet d'un examen approfondi de leur situation. Certains estiment avoir été injustement écartés, comme l'explique Christophe Rouget du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.
Aujourd'hui, nous sommes dans des situations qui ne sont pas juridiquement stables. On n'a pas des processus qui sont corrects. On a des gens qui sont peu formés pour détecter la radicalisation. Et donc, on peut se retrouver avec des situations difficiles qu'il faut éviter. Nous avons déjà connaissance de collègues qui s'estiment stigmatisés, qui nous disent « nous exerçons notre métier correctement, nous sommes de religion musulmane et nous voulons continuer à faire ce métier, mais nous avons été victimes de délations et les procédures qui sont faites à notre encontre sont illégales. » Donc ils souhaitent que les enquêtes soient rapides et que le processus judiciaire permette de les réintégrer facilement, rapidement dans leur profession. C'était nécessaire de mettre en œuvre cette politique de prévention puisque la police était en état de choc et nous avions tous peur que le danger vienne de nos rangs. Pour autant, il ne faut pas que cette politique de prévention conduise à une chasse aux sorcières.
Christophe Rouget du syndicat des cadres de la sécurité intérieure avec Emmanuel Leclerc. Un événement international majeur organisé l'an prochain à Rouen. Voilà comment Emmanuel Macron, sur place hier, compte redorer le blason d'une ville qui a du mal à se remettre de l'incendie de l'usine Lubrizol. Le président a parfois été hué en déambulant dans les rues hier soir. Les liaisons dangereuses entre réseaux sociaux et propagande politique, on en parle depuis la dernière campagne présidentielle américaine. Et ce matin, alors que Twitter Twitter vient de se débarrasser d'une partie du problème. Twitter va se passer de l'argent de la publicité politique. Plus de messages sur le réseau, a annoncé dans la nuit son PDG, Loïc Piala.
Plutôt que de contrôler la véracité de chaque publicité d'un candidat, Twitter décide donc de toutes les interdire. Les candidats ne devraient pas payer pour que leur message soit entendu. Ils doivent plutôt mériter qu'on les écoute, se justifie la plateforme. Financièrement, le risque est limité. L'an dernier, lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, les publicités à caractère politique n'ont rapporté que 3 millions de dollars au réseau social. Les équipes de campagne préfèrent Facebook ou Google. La décision de Twitter n'empêchera pas non plus un politicien de véhiculer des contre-vérités. Il n'aura qu'à les poster sur son compte. Plusieurs démocrates ont en tout cas salué le choix du réseau social. Un choix à l'opposé de celui de Facebook, qui refuse de censurer une publicité au nom de la liberté d'expression. L'interdiction a également fait réagir l'équipe de campagne de Donald Trump, très active sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, elle critique une décision stupide qui va priver Twitter de millions de dollars de revenus et entraver la parole des conservateurs. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Et Facebook défend effectivement les messages publicitaires politiques sur son réseau tout en chassant les fake news. L'entreprise annonce avoir démantelé une opération de désinformation dans plusieurs pays d'Afrique menée à partir de la Russie par le réseau d'un proche de Vladimir Poutine. Décidément, ça va mal pour Boeing après les accidents de ses 737 MAX cloués au sol depuis 7 mois. La compagnie annonce l'immobilisation de 50 appareils 737 NG dans le monde après avoir découvert des fissures dans leur carlingue. En Irak, au moins 100 personnes ont été tuées et 5500 blessées en une semaine de manifestations contre le gouvernement. Chiffre donné par la Commission gouvernementale des droits de l'homme. La contestation par vague depuis début octobre est surtout visible à Bagdad. Et c'est dans cette capitale irakienne que nous emmène notre série sur les murs ce matin avant le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin la semaine prochaine. Depuis l'invasion américaine de 2003, des centaines de murs ont été érigés à Bagdad contre les violences et les attentats. Il y a quelques mois, le gouvernement avait commencé à les retirer, mais devant la situation sociale, il est en train de les remettre. C'est un reportage de Lucille Wasserman.
Il aura fallu des mois pour les enlever et 24 heures seulement pour les remettre. Autour de la zone verte où se trouvent les institutions politiques à Bagdad, un groupe de militaires dresse une nouvelle fois d'immenses murs de béton sous le regard désabusé de certains habitants, dont Manal, la cinquantaine gérant d'une imprimerie.
Les gens vont avoir du mal à venir ici et ça va encore affecter nos commerces.
Grâce à une amélioration de la sécurité, une grande partie de ces murs avait été enlevée au cours des derniers mois. Mais les récentes manifestations ont une nouvelle fois changé la donne. De manière temporaire, explique le porte-parole du Premier ministre.
Ce sont des mesures de précaution. Dès que la situation s'améliorera, on les retirera à nouveau.
15 ans que ces habitants vivent avec ces murs devant leurs yeux. Alors pour Belkis, 42 ans, les cheveux colorés en rouge, cela fait longtemps qu'elle ne croit plus à leur retrait.
Nous, à Bagdad, on est habitué à voir non pas un mur, mais des centaines. Partout, dès qu'on ouvre les yeux, on s'est habitué à cette situation, c'est devenu naturel.
À chaque période, sa justification pour le maintien de ces murs, selon cette Irakienne. Protégée des violences sectaires et des attentats hier, des manifestations aujourd'hui, qui sait l'utilité qu'ils auront demain, dit-elle. Bagdad, Lucille Wasserman, France Inter.
Et c'est dans cette zone hérissée de murs, dans la zone verte de Bagdad, qu'un militaire irakien a été tué hier soir dans l'explosion d'une roquette tombée sur un checkpoint. Quand l'épouse d'un président parraine le salon du chocolat qui s'est ouvert hier à Paris, Dominique Ouattara, femme du chef de l'État ivoirien, le pays produit 40% du cacao mondial que l'on verra sur les robes en chocolat qui défileront au salon, qu'on goûtera dans les grands crus à la dégustation. Sébastien Sabiron, c'est la grande richesse de la Côte d'Ivoire qui a pourtant du mal à faire vivre ses producteurs.
Chocolatière artisanale, Amona Hachi achète et transforme son cacao directement en Côte d'Ivoire, une manière de créer de la valeur dans le pays qu'il a vu grandir.
Mon grand-père était planteur, il avait 40 enfants et avec le cacao, il a pu les nourrir et tous les scolariser. Aujourd'hui, les planteurs ne peuvent pas scolariser leurs enfants, ne peuvent pas payer de main-d'œuvre adulte. C'est une question de prix, en fait.
Certains petits planteurs vivent avec moins d'$1,20 par jour, asphyxiés par les multinationales et les négociants qui écrasent les prix. Secrétaire général de la Confédération des chocolatiers, Christophe Bertrand, a créé une coopérative au Cameroun avec 50 producteurs locaux.
Ces gens-là, ils amènent le cacao à l'aéroport de Yaoundé. Je vais le chercher à Roissy. C'est le cacao qui me revient le moins cher et c'est celui qui rémunère le mieux les planteurs parce qu'entre nous, il n'y a aucun intermédiaire. Donc je les paye 2,50€ du kilo alors qu'ils recevaient 1€ avant.
Sous la pression des gouvernements ivoiriens et ghanéens, certains industriels, dont Nestlé, viennent d'accepter de payer un supplément de $400 par tonne, encourageant mais insuffisant selon selon Christophe Bertrand.
Moi, ça me désole parce que je vois les programmes qui se mettent en place et on annonce toujours qu'en 2030, on va faire attention à ce que les cacaoculteurs soient rémunérés à leur juste valeur. Pourquoi faut attendre 2030 pour ça? Aussi longtemps qu'il y ait des consommateurs pour acheter des tablettes pas chères, on va continuer à avoir des gens qui, de l'autre côté de la chaîne, ne vivent pas de leur métier.
Le cacao ouest-africain est aussi lourdement taxé à l'exportation. Moins gourmand, les États d'Amérique latine permettent à leurs producteurs de mieux vivre de leur récolte.
Et pour goûter du chocolat ivoirien, ou d'ailleurs, 100 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche au Salon du chocolat à Paris. À Bercy, au Masters de tennis, Joe Wilfried Tsonga s'est qualifié pour les huitièmes de finale comme Gaël Monfils, après avoir battu Benoît Paire, alors que Manarino et Moutet ont été défaits par Nadal et Djokovic. Voilà pour le bilan d'hier au Masters de Paris. Enfin, elle est soprano, il est guitariste, ils sont frères et sœurs. Stéphanie et Mathieu Varnerin viennent de sortir leur premier album en commun. Pas autour du rock ou de la pop, Ali, mais c'est de la musique du 19e siècle, un album minimaliste et délicieux, Stéphane Capron.
Cet album, c'est d'abord un cadeau de Mathieu à Stéphanie. Il a retravaillé toutes les partitions composées à l'origine au piano pour mettre en relief la voix de sa sœur.
La guitare par rapport au piano apporte des couleurs que le piano ne peut pas offrir. Les cordes pincées, en fait, de la guitare donnent beaucoup de relief et ça permet de chanter ce répertoire aussi différemment.
J'espère justement que beaucoup de gens se retrouveront dans cet album avec cette idée de la guitare qui traîne un petit peu partout, dans chaque maison, dans le salon, dans une chambre à coucher. Donc voilà, le but c'était d'en faire un album pour tout le monde. Sans avoir
Parmi les curiosités de l'album, il y a un compositeur peu connu, Déoda de Sévrac.
C'est un compositeur occitan qui est beaucoup moins connu, puisque finalement il est retourné dans sa patrie natale. Vraiment, sa musique mérite d'être remise à l'honneur, d'être placée au même niveau que les Debussy, Reynaldo Hahn ou Fauré.
Cet album fait entendre la richesse de ce répertoire français, comme avec cette mélodie de Fauré qui célèbre l'amour.
Notre amour est chose déjà.
Stéphanie et Mathieu Varnerin, album guitare-voix. Ils seront ce week-end au festival hors saison musicale d'Étormay en Côte d'Or. Et on peut dire que ça change par rapport à la tournée des années 90. Vous avez sans doute entendu à 7h30.
Dans le journal de Sébastien
Deux journaux, deux ambiances.
Le moins qu'on puisse dire. Merci Florence Paracuelos.